Il est précisément 18h sur France Culture, le journal Mathieu Laurent.
Rebonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'extrême violence des combats dans le nord-ouest syrien que fuient des dizaines de milliers de civils, correspondance d'Istanbul. La rue irakienne qui cible Téhéran en plein pourparler en vue de la désignation d'un premier ministre. Les résultats préliminaires de la présidentielle de septembre dernier en Afghanistan analysés par Nabila Hamel. Et enfin le regard d'un expert en communication politique après qu'Emmanuel Macron a décidé de renoncer à sa pension de retraite de président de la République au 18e jour de grève contre la réforme. L'Observatoire syrien des droits de l'homme ne cesse d'alerter ces derniers jours sur la violence des combats qui font rage dans le nord-ouest de la Syrie entre forces pro-régime et effectifs djihadistes qui défendent là leur dernier bastion d'envergure, 170 morts dans les deux camps, 25 villes et villages désormais aux mains du régime et des affrontements en cours à proximité de l'une des grandes villes du secteur, Maharet al-Nouman. Des dizaines de civils, des dizaines de milliers de civils ont fui ou tentent de fuir et de se réfugier en Turquie, exode que ne manque pas d'exploiter le président turc. Istanbul, Julie Honoré.
Il serait même 50 000 selon les dernières déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il en avait déclaré récemment que son pays hébergeait déjà 4 millions de Syriens et maintenant 50 000 supplémentaires arrivent et leur nombre pourrait encore augmenter à la suite du pilonnage d'Idlib mené par la Syrie et ses alliés russes pour reprendre un des derniers bastions rebelles du pays. Erdogan s'est cependant gardé de préciser si la frontière turque était franchissable. Car la Turquie, qui a fait établir un mur de plus de 900 km à la frontière qu'elle partage avec la Syrie, n'a pas ouvert ses portes depuis 2016. Alors depuis plusieurs mois, les Syriens qui fuient les bombardements se massent dans des camps de fortune et dans des conditions déplorables à la frontière turque. Cette déclaration d'Erdogan pourrait donc être une manière de mettre la pression sur l'Union européenne en la menaçant d'un flot de réfugiés supplémentaires. Car depuis plusieurs mois, elle avertit régulièrement qu'il va ouvrir les portes du pays aux migrants afin de les laisser rejoindre l'Europe. Et parallèlement à cette menace, la Turquie a aussi commencé à renvoyer des Syriens de leur pays, et ce, malgré plusieurs rapports d'ONG qui évoquent des expulsions forcées. Le plan de l'administration turque, les établir dans une zone de sécurité au nord de la Syrie qu'elle a commencé à créer en menant une offensive armée début octobre.
En Irak, la rue n'est pas dupe des tractations et pour parler en cours, en vue de la désignation d'un Premier ministre. La jeune génération n'en peut plus de la corruption d'une classe politique qui confisque le pouvoir et s'accapare la rente pétrolière. Aujourd'hui, grève générale à Bassora et Diwania, deux localités du sud du pays, rassemblement nourri à Bagdad et dans bien d'autres villes. Les contestataires s'en prennent avant tout à la puissance iranienne incarnée par Qusay Al-Suhail, ministre démissionnaire de l'enseignement supérieur, présenté comme l'homme de Téhéran. Décryptage de Pierre-Jean Louisard, directeur de recherche au CNRS.
Il y a plusieurs noms qui reviennent régulièrement pour occuper le poste de Premier ministre en remplacement de Adel Abdel Mahdi, et Qusay Al-Suhail fait partie de cela. C'est une manœuvre, je dirais, iranienne pour garder la main sur le pouvoir en Irak et sur les institutions irakiennes en s'appuyant ou tout en feignant de s'appuyer sur un mouvement, le mouvement sadriste qui a donné raison aux manifestants. Mais c'est probablement le grand problème de la transition politique en Irak aujourd'hui, c'est le fait que tous les acteurs politiques et hélas aussi religieux sont compromis dans la mise en place du système qui fait faillite devant nos yeux. Et on se souvient que Muqtada Sadr est venu apporter son soutien aux manifestants avant de retourner où cela, eh bien, en Iran. Les manifestants aujourd'hui qui n'ont pas de tradition anti-iranienne particulière dénoncent l'ingérence iranienne comme étant responsable du maintien d'un système et notamment des milices chiites qui sont accusées d'exactions, puisqu'on sait que la répression qui a fait des centaines de morts a été rendue possible grâce à la formation de groupes armés clandestins hors des forces armées irakiennes officielles qui sont formées par les gardiens de la révolution iranienne.
Pierre-Jean Louisard. En Afghanistan, la publication des résultats préliminaires de la présidentielle du 28 septembre dernier invite à la prudence, qui plus est quand le vainqueur, le président sortant, Ashraf Ghani, est crédité par la commission électorale dite indépendante d'un score de 50,64% contre 39,5% à son rival, et chef de l'exécutif Abdullah Abdullah, moins d'un Afghan sur cinq a pris part à ce scrutin. Nabila Amel.
Nul besoin de dire que cette victoire annoncée ce matin du président sortant est loin d'être prise pour argent comptant par son rival Abdullah Abdullah. Celui qui était premier ministre avait d'ailleurs fait stopper le décompte des voix dans sept provinces du pays après avoir parlé de fraude. Ce matin, il continue de contester la réélection d'Ashraf Ghani avec 50,64% des voix. La commission électorale a dû reconnaître plus tard qu'il s'agissait bien d'un résultat non définitif et qu'il faudrait se résoudre à un second tour si le président sortant tombait sous la barre des 50%. Prudence donc, vous le disiez, prudence de l'ambassadeur des États-Unis qui insistait sur le caractère préliminaire de ces chiffres et sur les autres étapes à franchir. La mission de l'ONU prend note des résultats communiqués ce matin mais appelle surtout les candidats à faire part de leurs préoccupations ou de leurs griefs via des procédures légales. En clair, il s'agit d'éviter une crise constitutionnelle et une paralysie du pays, comme celle de 2014 qui s'est terminée par un partage du pouvoir entre les deux candidats, l'un à la magistrature suprême, l'autre à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, le contexte est encore plus fragile. Les responsables politiques à Kaboul sont largement discrédités pour avoir laissé le champ libre à la corruption pendant des années. Il faut ajouter à cela le processus de négociation en cours entre les États-Unis et leurs ennemis d'hier, les talibans. Or, ce processus est censé ouvrir plus largement la voie à un dialogue inter-afghan qui ne saurait réussir dans un climat de dispersion politique ou de résurgence des conflits interethniques.
Les jours du franc CFA sont comptés. Les présidents français et ivoiriens ont acté la disparition de cette devise emblématique de la France-Afrique avec, dès l'année prochaine, l'activation de l'éco-monnaie qu'utiliseront à terme 150 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest. Une réforme de façade, selon l'association Survie, qui rappelle ce soir que la France reste et restera le garant de la parité de l'éco avec l'euro. William Delesseux, de Radio France Internationale, est allé à la rencontre d'habitants de Dakar.
Mansour Gaï sort d'une boulangerie du quartier populaire de Wakab. Une baguette à la main, peut-être une des dernières achetées en France CFA. Pour lui, c'est la fin d'un vestige du colonialisme.
Notre indépendance monétaire n'était pas acquise depuis quand même plus de 60 ans. Je trouve que quand même ça freine un peu notre autonomie par rapport à notre politique monétaire. Donc il était temps aujourd'hui que nos politiques prennent leurs responsabilités et puis couper carrément le lien ombilical qui nous liait sur le plan de la monnaie avec la France.
Simon Goudiabi se réjouit de la fin du CFA.
C'est un signe d'indépendance. Ça, c'est pour moi le plus important. C'est l'Afrique montre qu'elle est capable de se prendre en charge lui-même.
Abandonner le franc CFA, Marguerite Folly ne se sent pas encore prête.
Ça fait un peu bizarre, parce qu'on ne s'y attendait pas. À moins qu'on en ait déjà parlé, que certains n'étaient pas au courant comme moi. Donc, on va s'adapter.
Vous auriez aimé être consulté ?
Tout à fait, et c'est normal. Pour pouvoir donner notre avis.
Pour l'économiste sénégalais Felwine Sarr, les annonces d'Alassane Ouattara sont loin d'être une révolution.
Non, je pense juste que c'est une étape et qu'en fait, il ne faut pas rêver. Et je pense que ça indique qu'il y a un système qui est anachronique, qui ne peut plus durer dans le temps et qu'il faudra abandonner.
Le taux de la nouvelle monnaie, l'éco, sera encore fixe et dépendant de celui de l'euro et donc de la France.
Et en pleine visite officielle en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron a exceptionnellement accepté de répondre à une question qui a trait à la grève contre la réforme des retraites en appelant à une trêve, tout en ajoutant qu'il renonçait à la pension qui lui sera attribuée en fin de mandat, soit un peu plus de 6 000 euros par mois. Démagogie, indécence, tonne l'opposition. Quelle cible viser au juste? Quel objectif? Élément de réponse avec Arnaud Mercier, professeur de communication à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2 à Sas.
Un des coups concerne l'image qu'il donne et qu'il projette de lui-même depuis l'affaire des Gilets jaunes et même avant. L'idée du président des riches, de celui qui justement favorise ceux qui sont déjà favorisés, etc. Donc il souhaite montrer que lui a bien pris conscience du fait que les présidents de la République ont un statut très particulier une fois qu'ils ne sont plus présidents et que du coup il veut montrer qu'il est en cohérence avec sa politique quand il dit qu'il veut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il commence par lui-même. Et le deuxième coup, c'est à destination du Sénat, puisque il avait commencé très vite par dire et bien sûr les élus s'appliqueront à eux-mêmes ces nouvelles règles, etc. Et on voit bien comment les sénateurs sont vent debout contre cette idée qu'il faudrait réformer de façon forte leur système de retraite qui est, il faut bien le dire, hors norme par rapport à ce qui se fait, justement. Et je pense que c'est une façon aussi, du point de vue de l'opinion, de mettre encore un peu plus la pression sur les sénateurs, sur le mode, écoutez, maintenant que le président de la République l'a fait, vous devriez le faire aussi. Quoi.
Des propos recueillis par Adrien Palluel. Le trafic des trains sera à nouveau très perturbé, tout comme sur le réseau de la RATP. Demain, lundi, au 19e jour de grève contre la réforme des retraites. Le temps de demain, justement, encore nuageux, avec des averses dans l'ouest et surtout le relief de la Corse. 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité, en grande majorité en Nouvelle-Aquitaine. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.